Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'Entrepreneuriat pour tous, le podcast de Ladi et Audencia qui explore l'entrepreneuriat ou comment chacun peut, à sa manière, devenir acteur de changement. Aujourd'hui, nous partons à la rencontre d'une entrepreneur, Frédéric David Créquer, ingénieur pédagogique et autrice de deux livres, Je suis auto-entrepreneur, ma micro, elle a tout d'une grande, et Je suis formateur, pour découvrir comment son aventure a commencé entre intuition, expérimentation et rencontre. Bonjour Frédéric.
Bonjour.
Pour commencer, pouvez-vous nous raconter comment vous avez fait vos premiers pas dans ce projet ? Qu'aviez-vous déjà sous la main en termes de compétences, de réseaux, de ressources au moment où tout a démarré ?
Alors, tout a démarré en 2006 et très honnêtement, je ne vais pas faire un... L'histoire est un peu rocambolesque. Ce qui s'est produit, c'est que c'était un de mes anciens employeurs qui m'a dit « Frédéric, tu n'es absolument pas faite pour le salariat, mais toi à ton compte. » Et je me suis retrouvée à me mettre à mon compte, je ne sais pas pourquoi. Je l'ai suivi. Et après, je me suis retrouvée aussi sur un projet en SARL avec quelqu'un dans le cadre des Jeux Paralympiques d'Athènes. On avait monté une société pour le projet sportif. L'expérience a duré 2 ans. Après, on était un peu jeunes, un peu bêtes. Donc, on s'est séparés professionnellement parlant. Et il a fallu rebondir. Et j'avais une SARL qui m'a coûté très, très cher. C'est-à-dire que je ne rentrais pas assez d'argent pour payer ce qu'on appelle les cotisations minimales.
Oui.
Et très sincèrement, je me suis retrouvée surendettée. J'aurais même pu faire un dossier, si j'avais voulu, de surendettement, mais j'avais mon ego, mon orgueil. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai réussi à fermer à l'arrache cette société. Je suis repartie, c'était en 2009, sur le régime de la micro-entreprise, l'auto-entrepreneur qui venait juste de se créer. J'ai pris des petits boulots à côté. Pendant 3 ans, j'ai remboursé mes crédits conso. Et je vendais à l'époque, je faisais des sites web, sans formation vraiment. Donc, je ne faisais pas du bon travail du tout, mais je faisais ce que je pouvais. Et je faisais aussi un peu de relations presse, parce que j'avais été attachée de presse dans le passé. Un peu de communication, parce que j'avais un parcours de communicant. J'étais d'ailleurs passée par une petite formation à Sciences Com à l'époque. Et à un moment, je me suis aperçue que je ne faisais pas forcément du bon boulot. Donc, je suis allée me former au web. Et là, j'ai compris qu'il fallait que je refasse tout ce que j'avais fait.
Pour monter en compétences.
En fait, j'ai découvert à l'époque qu'en tant que travailleur indépendant, j'avais le droit à du financement pour la formation parce que je cotisais. Ce qui s'est passé, c'est que 2009 à 2012, j'ai fait tout et son contraire. J'ai perdu un trimestre de retraite bêtement. Je ne savais pas que j'avais des droits à la formation. Tout ça parce que quand j'avais eu la SARL, j'avais fait les 5 jours pour entreprendre à la CCI. Et donc, j'ai estimé qu'au régime micro, je n'avais pas besoin de les refaire. Sauf que le fonctionnement était complètement différent. Et du coup, j'ai vraiment fait beaucoup de bêtises. Et donc là, j'ai commencé à me former, à apprendre, à découvrir comment ça fonctionnait. Je suis rentrée dans une structure associative qui s'occupait des indépendants, donc j'ai eu accès à beaucoup d'informations. Et en 2018, il y a une maison d'édition qui a frappé à ma porte. Donc je m'occupais de l'asso, de mon travail en tant que webmasterice, beaucoup, qui cherchait quelqu'un pour écrire un livre. Donc c'est les éditions Vibert, et puis ils sont venus me voir, donc j'ai dit on y va. Je n'aime pas les livres sur l'entrepreneuriat, je n'aime pas les lire, donc ça a été un vrai défi pour moi de faire un livre que j'arriverais à lire et relire et recorriger chaque année. Et j'y ai mis tout, c'est-à-dire que j'ai partagé mes erreurs. Comment ne pas perdre un trimestre de retraite bêtement ? Comment fonctionnent nos droits à la formation ? Comment les utiliser ? J'ai tout mis. Et parallèlement, j'ai eu l'opportunité d'animer des formations, donc même des marches. J'ai compris que là, sans formation, j'allais être une mauvaise formatrice. Donc, je suis allée me former au CAFOC de Nantes. Et j'ai fait en validation des acquis le titre de formateur pour adultes. Et là, c'est pareil, j'ai revu tous mes programmes de formation parce qu'avant la formation, j'ai compris que je faisais pas de la qualité. Pour pas dire autre chose. Et donc, du coup, je suis devenue aussi formatrice. Je me suis sentie l'obligation de transmettre à tous les créateurs toutes mes erreurs, qu'ils apprennent de mes erreurs. Ils vont faire les leurs. Mais au moins, si je pouvais sécuriser, notamment sur la protection sociale, etc., différentes choses, c'était bien. Donc, ce qui fait que j'avais l'activité d'autrice, l'activité de formatrice à l'époque et d'ingénieur pédagogique qui venait au fur et à mesure, et l'activité de webmaster, communication, un petit peu sur les réseaux, mais vraiment plus sur les sites web. Là, après, pendant de nombreuses années, j'avais toujours cette association à côté où j'étais. Et puis, ça s'est terminé en décembre 2023. Alors, j'avais eu un petit salariat en plus. Et en 2024, je me suis dit, qu'est-ce que je fais de mes 10 doigts, en fait. J'avais toujours un socle de clients. Mais on arrive aussi dans l'entrepreneuriat. Ce que j'explique aux entrepreneurs qui vont se lancer et que j'applique pour moi, c'est qu'il faut savoir jongler. Il faut avoir plusieurs casquettes. parce que des fois, on va avoir une activité qui peut s'arrêter. C'est-à-dire qu'on a vu pendant le Covid, tout d'un coup, il a fallu réadapter tous nos modes de fonctionnement. Et il y en a, mais ils ne pouvaient plus vendre. Donc, ceux qui ne pouvaient plus vendre sur un marché, il fallait qu'ils aillent vendre en ligne. Donc, se mettre, voilà. Donc, il faut savoir rebondir. Moi, j'ai plusieurs métiers. Ça va bien aussi avec mon tempérament. Pour ceux qui comprendront, je suis une zèbre, donc ça fonctionne plutôt bien. En fait, je préfère ce terme parce que le terme français n'est pas bon. On parle d'HPI, on met ça sur l'intellectuel. Ah oui. C'est vraiment pas la bonne définition en France. C'est plutôt le côté où je m'ennuie si je fais une seule et même chose. Donc, j'ai besoin d'en faire plusieurs et de varier. Et j'ai un cerveau qui fonctionne un peu en arborescence. Des fois, il va trop vite, mais même pour moi. Et donc, du coup, là, je suis arrivée à un âge aussi, 51 ans, où je me suis dit, qu'est-ce que je veux ? Je sais que je veux toujours rester indépendante, mais je veux aussi un salariat. Et j'ai trouvé une mission salariée en tant qu'ingénieure pédagogique sur 3 jours par semaine qui me va vraiment. Et je continue à côté ma vie d'indépendante. Là, je suis ce qu'on appelle au régime réel. J'ai fait société 2006 à 2009, 2009 à 2023, micro-entreprise. 2024, à ce jour, entreprise individuelle au régime réel. Je suis en train de me poser la question de repasser au régime de la micro parce que le chiffre d'affaires n'est pas énorme puisque à côté, j'ai mon activité de salarié. Mais en fait, je m'accorde le droit de... Voilà, si un jour, je veux redevenir indépendante à 100%, je peux. Et c'est en fonction de qui on est, à quel moment. Et souvent, moi, je dis aux gens, et c'est mon conseil, c'est qu'une forme d'entreprise, elle peut se décider sur le plan comptable par rapport à votre projet. Ce qu'il faut, c'est une société. C'est une EI, OK ? Mais après, il y a la personne. Donc, 2 projets similaires. Il peut y avoir 2 choix différents en fonction de la personnalité de la personne, de son envie à l'instant T. Donc, ce n'est pas qu'une histoire de chiffres, tout ça. C'est une histoire de qui on est. Quelqu'un qui va avoir une phobie administrative, on ne va pas l'embarquer sur une comptabilité, bilan comptable, compte de résultat. C'est une rigueur à avoir. Donc, du coup, moi, j'essaye de transmettre au créateur et je l'applique pour moi. C'est où, en ce moment, j'ai plus envie de me poser parce que j'ai 17 ans pour sauver ma retraite. Il y a aussi ça qui arrive avec l'âge, c'est qu'à un moment, on regarde la réalité des choses. Donc, je ne recherche plus ça, mais je sais que ma fibre indépendante, elle est toujours là. Et j'ai toujours des clients qui ne veulent pas que je les lâche. Donc, du coup, et je me lance dans d'autres projets politiques. Je suis un peu barrée dans ma tête des fois, mais voilà. Et on verra où ça mène. Et en fait, moi, ce que je retiens de ces... Oula, ça fait 20 ans, du coup. C'est que, déjà, quand une porte ne s'ouvre pas, il faut rentrer par la fenêtre. Mais surtout, il faut regarder les portes ouvertes. Il faut les regarder, c'est les voir en fait. Et saisir chaque opportunité, parce que des fois, le métier de formatrice, je n'avais pas calculé quand j'avais votre âge. Si on m'avait dit ce que je ferais aujourd'hui, je savais que je voulais être dans la com, ça c'est sûr. Mais je n'avais pas envisagé de faire du web, je n'avais pas envisagé de devenir ingénieur pédagogique. Et ce qui a été important, c'est de me former tout au long de cette carrière jusqu'à ce jour, de toujours chercher à comprendre et à apprendre. Ce qui m'a permis de devenir, je pense, quand même spécialisée sur la protection sociale des indépendants. Je suis pas mauvaise sur le sujet, ça je le sais. Et c'est important parce que quand on est travailleur indépendant, on ne connaît pas forcément ses droits, on pense qu'on n'a pas de sécu. Non, on sait qu'on a une sécu, mais on pense qu'on n'a pas d'indemnité journalière ou qu'elles sont faibles. On ne sait pas comment ça fonctionne, on fait des mauvais choix des fois, on perd des trimestres de retraite comme moi. Donc du coup, c'est de conseiller. Et aujourd'hui, il m'arrive encore d'accompagner des fois des créateurs. Alors, pas beaucoup, parce que je n'ai pas beaucoup de temps, mais essayer au moins de leur donner les bons outils et aussi de les rassurer sur cette démarche. Il ne faut pas vous évoquer le fait de dire « ça pourrait me faire peur ». En fait, il n'y a pas à avoir peur.
Oui.
Parce qu'en France, maintenant, quand on se lance déjà avant, quand on se lançait en entreprise individuelle, en fait, quand on veut se lancer dans l'entrepreneuriat, on a plusieurs solutions en France. On va avoir la société, on va avoir l'entreprise individuelle, on va avoir aussi le portage salarial, on va avoir les coopératives. Et en fait, c'est des briques après qu'on va ajouter. Et dans l'entreprise individuelle, on a ce qu'on appelle le régime réel ou la micro-entreprise, l'auto-entrepreneur. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que des fois, on peut cumuler plusieurs formes et on peut aussi passer de l'une à l'autre. Et en termes de protection sociale, on est tous aujourd'hui couverts pareil. Par contre, la réalité des choses, c'est que si on ne fait pas de chiffre d'affaires, on ne cotise pas, donc on n'a pas de droit. Et c'est une rigueur, c'est pas se lancer dans des projets surdimensionnés. C'est avoir une vraie réalité, une vraie vision et toujours avoir, moi je le dis, sa porte de secours. Si mon métier plante, qu'est-ce que je prévois de faire ? J'ai travaillé dans le milieu nautique avant d'être indépendante. C'était d'ailleurs sur la route du Rhum, Catherine Chabot à l'époque. Et son agent faisait un roadbook. J'ai gardé ce terme. Le roadbook, c'est on fait le scénario du marin sur la course. S'il se casse le doigt, s'il meurt, s'il dessale, si tout est écrit. Tout est scénarisé. Et aujourd'hui, c'est de se dire,
Ok, si ça marche pas, comment je rebondis? Pas de se dire, de subir, c'est de savoir comment on va faire. Et pour moi, c'est la création qu'on pense à ça. Et après aussi, c'est de connaître, et là j'ai siégé dans les conseils, ce qui existe quand l'indépendant est en difficulté. Parce qu'il y a plein de choses en fait. Il y a de l'action sociale pour l'indépendant. Et la petite histoire, c'est que de 2009 à 2012, je me suis surendettée pour payer à l'époque le RSI et l'URSSAF. Si j'avais su qu'il existait de l'action sociale au RSI, ils auraient épongé mes dettes et ils auraient payé mes cotisations à ma place. Donc en gros, j'ai souffert 3 ans pour rien.
Mais du coup, ça a permis d'apprendre derrière de ses erreurs et de...
Ça m'a coûté cher.
Et bien sûr, mais en tout cas d'aider les autres par la suite.
Voilà. Donc maintenant, je dis aux gens, c'est de connaître. C'est une aventure. C'est pareil quand on part en montagne. On vérifie tout son matériel si on va faire de l'escalade. Ben, c'est la même chose pour une entreprise. Est-ce que j'ai ma corde si jamais je glisse? Qu'est-ce que j'ai? Et en fait, c'est celui qui se lance bien en tête en disant avec son ego, ça m'a marché, je refuse d'envisager que. Mais les gars, si, vous avez quoi comme sécurité derrière? Et dès lors qu'on écrit tout ça, on est parti.
C'est super intéressant. Alors, on va partir sur la deuxième question. Donc, vous en avez parlé, lancer un projet, ça comporte toujours des incertitudes. Et comment vous avez décidé jusqu'où vous pouviez aller sans mettre en danger votre équilibre personnel ou professionnel?
Alors, je l'ai mis en danger. J'ai trop travaillé. J'ai trop travaillé, genre 7 jours sur 7. Donc, il a fallu s'arrêter. Le corps a lâché à un moment. Donc, j'ai compris qu'il fallait. Donc, oui, c'est une bonne chose de faire attention à l'équilibre personnel et professionnel. J'ai pas encore tout à fait la recette, mais c'est une bonne chose. Et après, il faut, j'aime pas les injonctions, mais dans l'absolu, c'est vraiment déjà d'avoir l'entourage. En fait, tout seul, c'est dur. Tout seul, c'est dur. C'est bien d'avoir le soutien d'amis, de famille, mais de gens qui vont comprendre ce qu'on fait. Parce que, alors déjà, l'entourage, c'est pas forcément les proches du reste, parce que les proches, ils vont dire « Oh là, l'indépendante, elle peut être dispo à telle heure, je le vois bien avec mes frères, ils pensent qu'en journée, je suis disponible. » Mais non, les gars, non. Je bosse réellement, en fait. Je ne suis pas en train de tricoter devant ma télé et je ne sais pas tricoter. Donc, non, c'est plutôt d'avoir un réseau, peut-être professionnel ou d'amis qui sont aussi indépendants, parce qu'on va se serrer les coudes. Parce qu'on va réfléchir ensemble, on va chercher des idées pour l'une, pour l'autre, on va se passer du réseau. Donc ça, c'est bien. Après, c'est toujours les 3 scénarios, celui où ça ne marche pas du tout comme on veut, celui où ça marche à peu près, et celui où ça marche très bien. Si on se voile la face sur les 2 premiers, la descente, elle va être dure, quoi. Là, aujourd'hui, on a mis en place avec une amie avec qui j'ai écrit « Je suis formateur », avec Marie. On a mis en place une formation, ça me coûte cher, ça me coûte 2000 euros parce qu'il me faut la certification Calliope, une formation destinée à ceux qui veulent devenir formateurs. C'est mon entreprise qui l'apporte. Formateur occasionnel en visio. En l'occurrence, elle ne se vend pas pour l'instant. Pourquoi elle ne se vend pas? Parce que je manque de temps pour vraiment la diffuser, parce qu'on anime des masterclass, mais les gens, le temps qu'ils fassent pas, etc. Donc, on a un problème avec Marie, on perd de l'argent. Pourtant, on est les autrices d'un bouquin qui est sérieux, qui est bien fait, qui parle du métier de formateur. Je ne suis pas trop bête, je sais faire un business plan. Donc, je vois les failles. Les failles, c'est qu'à côté, j'ai un boulot salarié, donc je n'ai pas forcément le temps de communiquer comme j'aurais, qu'il y a une offre qui existe pour ce territoire. Donc, par contre, là, on est en train de se dire, il va falloir qu'on arrête les dégâts. En gros, on va se laisser peut-être encore 3 à 6 mois maxi, parce que la certification Calliope est là. Mais tous les mois, je paye un logiciel qui me coûte 40 euros pour ça, et je ne rentre pas en face. Donc, il y a un vrai problème, ça me coûte. Donc, on va se fixer une deadline. Et et après, chacune repart. Donc, c'est aussi de savoir se dire, OK, et de faire attention à ne pas prendre trop de risques.
Donc, dans l'idée, si on revient à cet équilibre personnel et professionnel, c'est de se fixer des limites en amont, en fait.
Ouais.
C'est avant même de se lancer, fixer des objectifs pour vraiment se... Aujourd'hui, c'est un des enjeux sociétaux, je trouve, important. On en parle de plus en plus, ce qu'on appelle la work-life balance en anglais. Et du coup, l'idée, si j'ai bien compris, c'est de se fixer des objectifs pour se dire « je vais jusque-là et je vais pas plus pour ne pas mettre en danger mon équilibre ».
On peut aller plus, hein. Si le marché fait que ça s'ouvre, il va falloir changer, il va falloir se faire accompagner, il ne faut pas se freiner non plus. Mais c'est d'être raisonnable. Et aussi, il y a un point important qu'on n'a pas abordé, c'est de ne pas utiliser son argent. Et là, je vais rebondir sur l'ADI. Parce que beaucoup d'indépendants se disent « je vais utiliser mes fonds, j'ai 10 000 euros ». Mais non, en fait, et ça, c'est un traiteur nantais qui m'a un jour expliqué qu'il y a 3 boîtes aujourd'hui. Il m'a dit, Frédéric, ne travaille jamais avec ton argent. Prends celui de la banque. La banque, elle prête quand on crée, pas quand on ne va pas bien. Ton argent, elle servira quand ça ira pas bien. Donc, conseil que j'essaye de passer et que j'applique à moi. Donc, quand je me suis relancée en 2024, j'étais dans une situation où je ne pouvais pas faire de prêt bancaire. Et donc, du coup, l'ADI, j'ai fait mon prêt bancaire pour faire mes investissements auprès de l'ADI. Ce qui m'a permis justement de lancer. Parce que justement, j'avais besoin de cette certification Calliope, j'avais besoin de différents outils, etc. Et donc, j'avais à peu près pas mal de frais. Donc, du coup, c'est important et c'est aussi ça. C'est pas utiliser ces fonds. Ces fonds, on les garde. Alors, il faut toujours mettre un petit apport parce qu'on demande. Mais ces fonds, on les garde pour quand ça va pas bien, parce que là, il n'y a plus personne pour prêter.
Dans votre parcours, quelles personnes ont joué un rôle clé et comment ces collaborations ou ces rencontres, elles ont transformé votre projet ?
Alors la première, elle est avant ce parcours-là, c'est, je vais le citer, c'est Bastien Cousseau de C4 Traiteur, parce que le parcours de Bastien m'a toujours impressionné. Il n'a pas son CAP, je l'ai rencontré quand il a monté sa première boîte, en fait, ils n'étaient pas paella à Auchan de mémoire à l'époque. Et aujourd'hui, C4 Traiteur, c'est Goodici, c'est une autre entreprise qui a des créateurs, je crois. Il vient de fêter ses 20 ans. Il a un nombre de salariés, j'ai arrêté de les compter. C'est une super belle boîte. Et en fait, le gars, il a, même à un moment, je faisais des relations presse pour lui à l'époque, ça avait brûlé dans son nouveau local à Vigneux. Et il aurait pu tout arrêter. Il est reparti. Et il s'est toujours entouré de gens. Et il est allé chercher les compétences qu'il n'avait pas. Il a fait tout pour les acquérir. Il est bon. Et Bastien a toujours été quelqu'un qui...
Qui vous inspire.
Mais oui, parce que c'est possible, en fait. Mais voilà, il a sécurisé chaque parcours. Il l'a fait. Donc, il y aura Bastien. Après, Marie Cortana. Je vais la citer, j'ai coécrit le livre avec elle. Parce que Marie, quand je me suis formée au métier de formatrice, c'est elle que j'avais comme formatrice. On est devenus amies par la suite. Qui déjà m'a ouvert ce monde de la formation que je ne connaissais pas tant que ça, en fait. Je ne connaissais pas du tout, d'ailleurs. M'a traité de zèbre pour la première fois. C'était gentil dans sa tête, dans sa parole, mais je me suis demandé pourquoi est-ce qu'elle mettait des rayures. Donc, du coup, m'a ouvert aussi une vision de moi que je ne connaissais pas, que je ne comprenais pas. Elle m'a permis de mettre des mots sur pourquoi à l'école j'étais moyenne, pourquoi je dessinais tout le temps quand je faisais un cours et c'était pas une manière de. C'était pour intégrer la pensée, parce que j'ai compris que j'étais kinesthésique, c'est-à-dire que j'apprends par le geste. Donc du coup, pour les cours de maths, il fallait que je dessine, mais ce n'était pas une... voilà. Donc ça a permis de remettre pas mal de choses, d'apprendre à se connaître. Aujourd'hui, c'est les deux personnes comme ça qui me viennent à l'esprit, voilà, qui m'ont apporté réellement.
Et est-ce qu'il y en a une troisième ?
Eh bien, la troisième, en fait, c'est ma première patronne. Oh là là, mon premier mail professionnel. En fait, où j'avais écrit à un photographe connu et elle me dit, mais faut dire merci, c'est pas une femme. Elle m'avait insultée parce que... Je ne savais pas écrire un mail. Je n'avais pas dit merci, bonjour, au revoir, etc. Les formes de politesse. Et elle s'appelait Anne. Et Anne m'a appris à avoir une... celle qui a détecté mon sens de l'organisation, en fait. Ma première vraie patronne. Et c'est vrai que ça m'a marquée. Et c'est là que j'ai appris le roadbook. En fait, c'est là que j'ai appris. Donc, en fait, c'est vraiment plus dans le passé derrière que dans le...
Que dans la continuité.
Voilà. Ouais.
Alors, du coup, la quatrième question que je voulais vous poser, c'est... on le sait, les choses, elles ne se passent pas toujours comme prévu. Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple d'imprévu ou alors de surprise que vous avez su transformer en opportunité ?
Assez récemment, oui. En fait, en 2024, il a fallu que je relance mon activité. Donc, je me suis demandé comment faire. Et j'ai créé avec l'IA un petit avatar. Et j'ai passé énormément de temps à monter des petites vidéos pour LinkedIn. Essayer de raconter, essayer de, voilà, sur la thématique de l'entrepreneuriat, etc. Donc, j'ai créé mon avatar. Que j'ai mis en scène avec Nîmes.ai, voilà, faire des petites choses. Et en fait, à un moment, je me suis dit, bon, c'est bien, je donne des infos gratuites à tout le monde, mais quand est-ce que ça retombe ? En fait, quand est-ce que j'envoie les bénéfices ? Et un jour, j'ai été contactée comme ça par Trace Global, que je ne connaissais pas du tout, qui est un média africain, en fait, français mais africain, qui couvre toute l'Afrique. C'est genre TF1 en France, en fait.
Ok, oui, donc un truc quand même assez énorme, quoi.
C'est énorme. Et en fait, Trace Global a aussi une académie où il y a des programmes de formation sponsorisés par les différentes structures. Il y a même Canal qui a ses programmes. Et donc là, c'était un programme financé par l'Agence française de développement, monté avec l'Université Paris-Nanterre. Et ils cherchaient donc une ingénieure pédagogique pour écrire les capsules vidéo de 3 minutes. Et donc, j'ai eu cette mission que j'ai bien négociée, j'étais très contente et qui était super intéressante. C'était sur le sport à impact, entreprendre avec le sport à impact en Afrique.
Ok. Ouais,
donc, j'ai découvert un peu, commencé à décortiquer et découvrir l'Afrique et son système économique, et poser des questions bêtes. Mais comment ils font pour leur sécu ? Ils n'en ont pas. Ah, d'accord. Ok. Donc, comment entreprendre dans le sport à impact ? La notion de sport à impact que je ne connaissais pas aussi, hein, en fait. Hein, c'est sport avec des valeurs, en fait. On n'est vraiment pas dans le sport... marketing. Et donc, tout ça, c'est une, ces investissements, je ne sais pas si ça répond à la question, mais en gros, j'ai passé beaucoup de temps et tout d'un coup, ça s'est réellement transformé en opportunité parce qu'elle a vu, elle m'a juste sélectionné en voyant ce que je faisais sur les réseaux.
C'est une surprise, en fait, que vous avez eue, c'est d'être contacté comme
et,
ça du jour au lendemain. Ouais.
C'est ça. Et du reste, même le boulot salarié que j'ai aujourd'hui, pour en avoir discuté avec les personnes qui m'ont recruté, ce que j'ai fait aussi sur les réseaux, ça les a rassurés et ça a amené vers. Donc, en fait, c'est moi que j'ai passé ces nuits ou longues soirées, au moins jusqu'à minuit, n'ont pas été vains, même s'ils n'ont pas payé au bout de 3 mois, ils ont payé au bout de 6, 9, 1 an. Ça a payé. Donc, comme quoi, voilà, je suis contente.
Moi, parce qu'il y a des surprises, justement, ça, c'est cette surprise-là, que c'est une nouvelle opportunité, c'est une nouvelle activité, en tout cas, à votre long panel, on peut dire maintenant.
Tout à fait.
Et dernière question que je voulais vous poser, c'est avec le recul, est-ce que vous diriez que votre projet s'est construit davantage autour d'une vision précise du futur ou d'une série de pas concrets guidés par ce que vous pouviez faire ici et maintenant ? On a déjà un petit peu parlé au début.
Ouais, mais, il s'est dessiné au fur et à mesure. C'est vraiment, et même ce que j'ai ce que je souhaitais faire en 2024 n'est pas ce que je fais en 2026. Donc, en fait, c'est. Alors, maintenant, je pense que ça ne serait pas forcément le même cas pour tous les profils. Quelqu'un qui fait des bijoux fera des bijoux. Elle va juste faire évoluer sa gamme ou travailler des matériaux. Moi, mon outil, c'est mon cerveau, en fait. Hein, c'est ce que je sais faire. En 2024, je me suis mise à l'IA. Ça a tout changé dans ma vie, en fait. Vraiment tout changé. Parce que du coup, et grâce à l'IA, je peux faire aujourd'hui des vidéos que je faisais pas hier. Je peux écrire beaucoup plus vite. C'est vraiment, c'est mon savoir, mon expertise. Mais effectivement, on écrit plus vite. Et ça a tout révolutionné dans ce que je fais. Aujourd'hui, un programme pédagogique, quand je mettais peut-être une semaine pour le faire, je le fais en 2 jours. Parce que l'IA va me proposer, non, je ne suis pas d'accord, oui, je suis, etc. Et c'est un travail de... ça vaut savoir utiliser l'IA. Ceux qui font faire par l'IA, et merci, amen. Surtout, elle fait tellement d'hallucinations. Ouais. Quand elle n'est pas experte. Et sur l'entrepreneuriat, l'IA n'est absolument pas experte. Comme elle va chercher toutes ces données sur la toile, déjà, l'auto-entrepreneur, elle dit que c'est un statut alors que c'est un régime. Elle va employer toutes les terminologies. Je me suis retrouvée avec une IA qui me disait « En congé mat, tu as le droit de travailler. » « Non, mon gars, je n'ai pas le droit. »« Ah, si, tu as raison. »« Mais non, tu as le droit de travailler. »« Mais non, mais j'ai donné le texte de loi. »« Ah, vous avez raison avec le texte de loi. » Puis 2 secondes après, tu as le droit de travailler. « Non, mais Voilà. Donc, ne jamais écouter les conseils d'une IA dans l'entrepreneuriat. C'est une catastrophe.
Donc, votre vision plus avec l'IA, c'est vraiment un assistant, mais pas un... C'est l'utiliser comme un assistant et pas remplacer en tout cas l'auto-entrepreneur parce que forcément ça va être très compliqué derrière. Quoi.
Et il change la donne dans nos métiers. Hein. Je le vois sur le web, je le vois partout en fait. Donc en fait, c'est un métier en évolution. Enfin, d'être entrepreneur, c'est vraiment... De toute façon, on doit suivre la tendance et s'adapter. On est dans un monde qui change. En plus, il est en train de s'effondrer notre monde. Donc globalement, il va falloir se battre pour y arriver. Hein.
Et justement, quand on parle d'un monde qui change, du coup, c'est pour répondre à la question, c'est des pas. Pas à pas, en fait, on a construit le projet, il a évolué, vous n'avez pas tout planifié au début, en fait.
Non, mais si, quand on a, on m'aurait dit ce que j'allais faire là. Mais, grand Dieu, mais jamais je l'aurais imaginé, en fait. Ça a été des opportunités, des coups durs aussi, rebondir après un coup dur. Très sincèrement, j'en ai eu un fin 2023, un vrai coup dur, un vrai stop. Et comment je me réinvente ? Qu'est-ce qui me reste ? Parce que cette partie, la vie d'avant s'arrête. Donc, sur quoi je rebondis ? Ça n'a pas été facile. Hein. Puis alors, l'ego, il faut le mettre de côté. Hein. On dit, OK, maintenant, on fait quoi ? Alors, je suis toujours autrice, hein, je suis toujours mes bouquins. Donc ça, c'est une fatalité. Je sais toujours faire ça. Qu'est-ce que tu as envie de faire ? Alors, je sais que j'avais besoin d'un projet qui me porte. J'en ai trouvé 2, donc ça, c'est chouette. On va voir où ça me mène. Et ça se trouve, dans 1 an, dans 2 mois, je ne serai pas non plus en train de faire ce que je fais aujourd'hui. J'ai décidé de prendre ce que la vie m'apportait. Et s'il y a une porte ouverte, d'aller voir ce qui se passe derrière.
C'est beau. Ce sera peut-être la phrase de fin. Et je vais juste me revenir sur une phrase que vous avez prononcée durant le podcast qui m'a interpellé, c'est qu'on ne peut pas entrer par la porte, il faut le faire par la fenêtre.
Ouais.
Qu'est-ce que ça veut dire, ça ?
En fait, c'est quand on a une problématique, les gens disent « non, c'est pas possible ». Oui, mais attends, en passant par là, on peut peut-être y arriver, en fait. C'est cette idée de ne pas prendre la première réponse qui est négative pour une réponse ferme. C'est, par exemple, les indépendantes, surtout les auto-entrepreneurs, dans le cas des congés maternité, il y a encore des difficultés aujourd'hui. Ça a été mon cheval de dada, mon dada, ça. J'ai pas réussi à mener ce combat jusqu'au bout, parce que je voulais un congé maternité universel. Mais... Et en fait, aujourd'hui, il y a des femmes qui, elles sont demandeurs d'emploi et elles montent sur leur micro, mais elles n'ont pas assez cotisé. Donc, le bébé arrive et en fait, elles n'ont pas de congé mat parce qu'elles n'ont pas assez cotisé avant. Normalement, la loi prévoit que ce soit calculé sur les droits de la période chômage. C'est pas les bons termes, mais c'est, je vulgarise. Et en fait, ces femmes-là, souvent, elles reçoivent un courrier, vous n'avez pas de droit. Ça, c'est la porte qui s'est fermée. Rentrer par la fenêtre, c'est quoi? C'est comprendre comment ça fonctionne, c'est voir s'il y a une autre sortie. On comprend que là, effectivement, la Sécu ne fait pas forcément son travail à fermer une porte qu'elle n'aurait pas dû. Donc, du coup, on va trouver le texte de loi. Donc, du coup, on va trouver le médiateur qui va permettre. Donc, du coup, on va, et à la fin, on récupère. C'est de jamais prendre le premier nom pour ferme. C'est de toujours aller voir, est-ce que c'est légal? Est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'il y a une autre sortie? Est-ce qu'il y a une autre manière de faire? C'est ça, en fait.
Merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions. C'était super intéressant, en tout cas. Donc, je vous remercie sincèrement. C'était la fin de cet épisode et on se retrouve très bientôt pour le prochain.